Bonjour. La question, c'était au niveau des appliances VPN. Vous nous avez dit que Cisco et Juniper étaient supportés. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres constructeurs? Parce que si on déploie des solutions chez nos clients, je pense qu'il faudra quand même que ce soit toujours dans le cadre du support, puisque ça va devenir un élément critique de l'infra. Et est-ce qu'il y aura une solution avec éventuellement des produits Microsoft, sachant que c'est en train un petit peu de bouger de ce côté-là?
Alors, j'ai pas de réponse pour les produits Microsoft. Comme d'habitude, nous ne parlons pas de ce qui n'est pas officiel et donc j'ai rien à vous dire cette partie particulière. Par contre,
Il
aujourd'hui,
te faudrait un micro.
j'ai un micro. Est-ce qu'on fait revenir Jeff?
Non, mais il n'est pas en 1360 ton micro.
Par contre, sur la partie plateforme supportée à l'heure actuelle, la partie spécification pour fonctionner sur Azure et sur les fonctionnalités de VPN sont très simples, très claires et documentées. Ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est qu'on valide des plateformes techniques hardware, et donc notre support acquiert progressivement des compétences sur différents équipements. Donc oui, vous verrez un peu plus d'équipements apparaître. Maintenant, on ne les couvrira pas tous, puisque le travail pour nous de formation du support est colossal, et donc il y aura toujours un cahier des charges minimal à partir duquel vous savez que ça devrait fonctionner, la capacité de remonter vers le support pour avoir une information plus précise et des équipements supportés en standard sur lesquels on sait exactement comment les configurer et les faire marcher.
Merci.
Alors, si vous avez une question concernant n'importe lequel des sujets qui sont là-haut, parce qu'il y a un paquet de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On s'est focalisé sur cette journée sur principalement les aspects de mise en production et d'infrastructure. Le sujet, c'était vraiment la partie machine virtuelle. Maintenant, il y a aujourd'hui dans Azure beaucoup d'autres composants. Et donc, on a la chance d'avoir Blaise ici qui travaille pour Microsoft Corp, qui organise avec pas mal de gens. Oui, un espion un peu francophone, et qui nous organise dans quelques jours, c'est le 4 décembre, un événement qui, lui, est tourné vers le développement et plus spécialement vers l'ensemble des stacks open source. Donc, je vous ai mis le lien d'inscription si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et ça se passera dans le centre de Paris, du côté de République. Un instant.
En fait, c'est ça ce qu'il avait écrit.
C'est mieux là?
Oui.
Vous lisez aussi? Donc voilà pour cette petite journée. Ensuite, deux autres éléments intéressants pour pouvoir avancer concrètement. Donc celui-là, c'est vraiment prendre de l'information sur la partie dev et vous aurez des liens contacts, enfin des contacts directs avec les gens qui aujourd'hui au quotidien travaillent à l'implémentation de ces technos. C'est des membres du groupe produit et du groupe d'assistance technique qui débarquent et qui viennent en parler. Le deuxième élément, j'en ai déjà fait la pub brièvement ce matin, j'en reparle cet après-midi, ça c'est franco-français, c'est l'accélérateur. Donc là-dedans, on vous donne accès à tout un paquet de ressources, notamment Benjamin, ressource numéro 1, et Pierre, ressource numéro 2. Donc n'hésitez pas. Et le troisième élément, mais ça vous le savez déjà. Donc l'offre pour ceux qui n'ont pas encore essayé, elle est directement disponible de façon gratuite sur aka.ms/. Alors je vais faire comme Blaise. Excusez-moi. Hein. Voilà. C'est le bon côté des environnements Windows, c'est que c'est case insensitive. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend? On a un petit bout de tirage au sort qui doit arriver.
Vérifie qu'il est. Ah, si, voilà. Je savais qu'il y avait d'autres questions.
J'en ai même deux, j'en profite. On a parlé de tarification pour le stock. Quand on a parlé de tarification pour le stockage, on a parlé de la notion de transaction.
Oui.
C'est quoi en dessous? C'est une opération d'entrée-sortie ou c'est plus de choses? Ça, c'était la première. La deuxième, c'est juste la possibilité de provisionnement automatique, si je peux parler entre guillemets, d'auto-scaling. Si ça existe et comment c'est implémenté.
Alors, on va faire ça à deux. Je vais commencer par la partie transaction. Une transaction, c'est un appel à l'API REST qui permet de faire fonctionner le storage. Concrètement, ça représente quoi? Ça représente des opérations atomiques dans pas mal de situations. Typiquement, vous allez supprimer une entité, modifier une entité ou lire une entité. Ça, c'est une première transaction. Il y a un cas un petit peu particulier qui sont les disques dans Azure. Donc, toutes les machines virtuelles reposent sur des disques persistants. Ces disques persistants sont dans les storage. Donc, vous payez pour les transactions qui sont dessus. Simplement, ce qu'on a mis en place pour ne pas être matraqué par les coûts de transaction, c'est par le biais des mécaniques de cache, on groupe les opérations. Et donc, quand vous avez une opération sur un fichier, jusqu'à... Alors, les seuils varient, donc je ne peux pas m'engager là sur la taille exacte, mais il y a quelque temps, jusqu'à 2 mégas qui étaient envoyés en contigu, c'était une seule transaction qui partait, et au-delà, c'était refragmenté en N blocs. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est toujours à 2 mégas ou plus ou moins, parce qu'on a fait une grosse visite de l'infrastructure réseau il y a quelques semaines, et je n'ai pas encore regardé les nouveaux éléments. Donc, ça représente ces accès individuels. Quand vous allez sur votre portail Azure, je ne sais pas si tu en as un qui est ouvert pour qu'on puisse le montrer, vous avez le détail de la tarification, et ces éléments-là sont également mis en avant. Donc, ce que nous, on fait systématiquement avec les gens quand ils partent en production, ou quand ils partent en développement et en test, c'est qu'on fait tourner la plateforme pendant quelques jours, et au bout de quelques jours, on relève les consommés pour pouvoir faire de la projection de coûts sur le besoin spécifique qui a été évoqué. Un exemple tout bête, il y a plein de situations où les images ou les contenus statiques que vous mettez à disposition sont en réalité cachés downstream par des hébergeurs, des caches diverses et variées, etc., etc. Donc vous ne voyez pas l'intégralité remonter. Et ça, cette connaissance-là ne peut s'acquérir qu'à travers l'observation de la vraie situation. Donc ça, c'est la partie qui était spécifique à notre gestion des transactions.
Oui. Donc, effectivement, les transactions, en termes de coûts, c'est de l'ordre de 1 dollar par 10 millions de transactions, c'est-à-dire 10 millions de get ou de put au niveau vraiment élémentaire. Voilà.
Maintenant, on va parler un petit peu d'autoscaling.
Alors, sur l'autoscaling, en fait, y a la première situation, c'est le fait d'être en plateforme as a service. Donc là, plutôt en mode de développement. Dans ce cas-là, on a un bloc qui est dans Pattern and Practices qui s'appelle le Windows Azure Scaling Application Block, et puis on a rajouté un i pour que ça fasse Wasabi, qui permet de faire ce genre de choses. Donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a deux types de règles. Il a une première règle qui est une règle de contrainte de structure qui va dire de telle heure à telle heure, j'ai que entre 2 et 10 machines dans ma ferme, par exemple, et la nuit, en revanche, j'ai que entre 2 et 4 machines. Et puis ensuite, on va avoir des règles de contrainte, de réaction, qui là vont être de dire si j'ai plus de 80% de CPU qui est utilisé sur ma ferme en moyenne, dans ce cas-là, rajouter 10% de machines dans la ferme. Donc ça, c'est au niveau développement. Et dans ce mécanisme, ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois, ça suppose de récupérer les compteurs de performance et de les centraliser. Donc ça, c'est un mécanisme qui existe aussi dans la partie pass avec le Windows Azure Diagnostic Monitor, et ensuite arriver à en faire quelque chose, donc ça avec ces règles qui s'exécutent. Donc ça, d'un point de vue dev, on peut le faire. D'un point de vue infrastructure, plutôt, dans ce cas-là, on peut avoir avec System Center Operations Manager, par exemple, la récupération des compteurs de performance comme vous le feriez à demeure, et puis ensuite avoir des actions sur des alertes qui elles-mêmes peuvent être le fait de dire « j'ai plus de 80% de CPU sur mon service ». Et dans ce cas-là, à nouveau, je vais lancer un script qui va être un script PowerShell comme celui qu'on a pu voir pendant la journée 2-3 fois et qui va rajouter des machines virtuelles. Donc évidemment, il faut que les machines aient été sysprépées et qu'elles soient prêtes à être instanciées naturellement. Mais on peut tout à fait avoir ce genre de démarche d'un point de vue purement infrastructure. Après, on peut avoir évidemment un mix entre les deux et récupérer des compteurs de perf qu'on va centraliser dans le blob storage, qu'on va récupérer par d'autres moyens et par le développement, aller déclencher également l'ajout de machines et également la suppression de machines, qui est aussi un cas important dans la montée en charge parce qu'il y a aussi la descente en charge.
Oui, alors un petit complément parce que je l'ai fait récemment pour un client. Ce qu'on rencontre très souvent, et il s'agit d'un site qui a un très fort trafic et qui stocke entre 200 millions et 1 milliard d'objets selon les périodes de l'année et qui doit servir ces objets. Ils ont une vision extrêmement claire de leur pic de charge dans la journée, ils les connaissent parfaitement, et donc ils ont simplement automatisé à coup de tâches schedulées les montées et descentes de nombre d'instances. Ça, c'est le premier élément important. Le deuxième qui est très important, c'est que la granularité de tarification de cette plateforme, c'est l'heure. Donc, quand vous mettez en place un mécanisme de scaling, quel qu'il soit, et encore une fois, il y a plein d'options, il faut éviter que ça fasse du yo-yo. Donc, il y a des mécanismes de lissage, notamment dans Wasabi, ouais, qui permettent de garantir qu'on ne va pas changer d'avis au bout de 3 minutes. Ça n'a pas de sens.
Merci. D'autres questions ?
Sur les contraintes VPN, là, vous les avez ici aussi, dans le portail. About VPN devices for virtual network, vous avez, c'est là où vous retrouvez en fait les éléments Cisco ou Juniper qui sont ici. Et puis, donc Juniper également. Et puis, également, les contraintes en termes, par exemple, sur le support d'IKV1, des choses comme ça.
Voilà, en fait, je voulais savoir si le VM en ligne depuis Windows Azure supporte le traitement ou la retouche des images, ou bien serait-il toujours dans la fonction de monter en charge e-commerce.
Plus fort.
Juste savoir si les VM en ligne depuis Windows Azure supporte la retouche des images, ou bien il faut les travailler toujours en streaming, je ne sais pas.
Non, alors, donc le problème qu'on avait sur la partie plateforme as a service, c'est que les disques étaient non modifiables. Donc, si vous vouliez ajouter un composant, rajouter un service pack, faire n'importe quelle évolution, il fallait effectivement une opération très lourde pour la remettre en ligne. Sur la partie machine virtuelle, vous modifiez, c'est fini. Ça se fait en ligne directement. Il n'y a pas de downtime, pas d'arrêt, pas de reprovisioning, c'est naturel. D'accord.
Oui, bonjour. J'ai quelques questions, ça va être principalement sur la roadmap. C'est pour l'arrivée des iMemory, premièrement, le multi-VPN, deuxièmement, et SSAS en passe, troisièmement.
Alors, donc je sais que ce n'est pas une réponse très satisfaisante, mais au-delà de redonner la roadmap déjà annoncée, on ne peut pas vous donner plus d'informations. Donc, l'annonce a été faite très récemment de l'arrivée à terme des instances à très haute mémoire, et c'est notamment un élément sur lequel il y a quelques scénarios où les gens sont très gourmands. Aujourd'hui, on n'a pas de date de disponibilité, ni pour une preview, ni pour une disponibilité générale. Voilà. Mais encore une fois, donc on a Julien juste ici et Marwan qui s'occupe de toute la partie communication. Donc sur le site, sur le blog, sur les newsletters et sur le Twitter de Benjamin, on est à peu près en temps réel sur ces nouveautés. Il nous arrive de voir vers 23h30 une modification et on a les démos prêtes le lendemain matin quand on est en train de parler devant des gens. Donc suivez-nous sur un de ces canaux et vous aurez l'information à la vitesse où elle apparaît chez Corp.
Ok, donc je crois qu'on n'a plus de questions. Je vais laisser la conclusion à Julien, puis on va procéder au tirage au sort.
Non, le sort.
Bah, merci. Merci beaucoup. Pierre, Benjamin, merci beaucoup pour ces réponses et merci surtout à tous d'être venus aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oui. Oui. Ok. Donc parfait, si ça vous a plu, c'est déjà pas mal. Encore une fois, l'aventure n'a fait que commencer. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à découvrir Windows Azure aujourd'hui ou dans les jours précédents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre l'aventure. Il y a l'événement du 4 décembre autour des technologies open source. C'est bizarre. Mais voilà, parce qu'encore une fois, la plateforme Windows Azure, ce n'est pas que pour les développeurs et pas que pour les professionnels informatiques Windows et Microsoft, mais pour tous. Et on a déjà des très belles références aussi sur nos technologies, que ce soit du NoSQL ou d'autres types de langages. Autre point, c'est l'accélérateur Windows Azure. Allez-y, consommez, échangez. On a des super communautés aussi. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais avec des communautés de user group Windows Azure qui sont extrêmement actives. Donc, il ne faut pas hésiter à rejoindre ces groupes et au final, à partager les bonnes pratiques. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur le cloud, globalement, plus on en fait, plus on y gagne. Il y a aussi un facteur d'expérience. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, vous allez voir que vous allez pouvoir optimiser aussi vos factures, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace dans la manière de jouer avec Windows Azure. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part une très bonne utilisation de Windows Azure ? Juste, je vais me permettre dans la salle, vous levez juste la main, qui est intéressé par des scénarios de dev test autour de Windows Azure ? Ok, pas mal. Qui est intéressé par des scénarios vraiment de déploiement de SQL ou de SharePoint dans Windows Azure ? Ok. Et qui est intéressé par des scénarios de stockage, de blob, des choses comme ça, pour enfin taper dans les appliances et chez EMC, chez NetApp. Je ne sais pas, j'ai dit ça. Ok. Donc, merci. Ça me donne toujours un petit moyen de voir un petit peu les scénarios effectivement qui sont les mieux à même de raisonner. Sachez qu'évidemment, il y a plein d'autres choses. On a organisé un événement Media Services qui avait très bien marché il y a quelques jours. Surtout, n'hésitez pas à nous faire connaître vos besoins ou faire connaître vos souhaits de présentation ou autre. On est vraiment là pour vous. On est là pour vous. On a la chance d'avoir une corp qui, est, même si elle est à Seattle, elle est relativement proche, en tout cas, à notre écoute. On va passer au tirage au sort. Parce qu'il y avait il y a quand même des lots sympas, ce que je vois, avec des Xbox et des Nokia. Donc là, c'était les personnes qui ont souscrit à l'offre et qui l'ont démontré, c'est ça ? Ok, parfait. Je vois qu'il y en a pas mal. Donc, 3 Xbox, une Kinect et 4 Nokia. Et Nokia 820. Je vais peut-être en garder un pour moi, alors. Ok. Tirage au sort Kevin, vas-y, non ? Ouais. Allez, Kevin, on va pas... Parce qu'il est déjà tard, donc on va pas. Faut que les gens déploient des VM après en arrivant chez eux, donc quand même. Alors le premier lot est une Xbox 360. Voilà. Quelqu'un peut faire un roulement de tambour, hein ? Non ? Christophe Emmanuel. Je vois quelqu'un se lever, je ne sais pas si cette personne part ou vient chercher sa Xbox. Je crois bien que c'est lui. Bravo! On va peut-être revenir sur la scène après. Deuxième, l'eau. Avec une Xbox toujours. Antoine de Tinguy, il est là également. Donc je vous rappelle que sur Xbox, c'est disponible un merveilleux service qui s'appelle Xbox Music et Xbox Vidéo, qui est développé ici d'ailleurs dans nos locaux au troisième étage, et qui, je ne sais pas pourquoi j'en parle, est développé aussi et utilise fortement Windows Azure, notamment la partie storage. Croyez-moi, ils n'ont pas été simples à convaincre non plus. Mais c'est un superbe case. Eric Tourlet. Eric, voilà. Au premier rang, Eric attendait son lot. Et maintenant, on part sur les Nokia Lumia 820. Yann Feyol. Oui. Donc un scénario non démontré aujourd'hui, c'est Mobile Services. Je vous invite tous à regarder Mobile Services pour fabriquer de magnifiques back-end pour des applications mobiles, pas seulement pour Windows, mais également pour iOS ou pour Android. Si vous, je fais de la petite pub pour des gens comme Mobile République et plein d'autres qui utilisent le back-end Windows Azure, n'hésitez pas. Christ Jérôme. Je connais cette voix.
Okay. Donc, c'est quelqu'un qui avait fait par mail.
C'est quelqu'un qui avait fait par mail, d'accord. Ok. Voilà, le troisième téléphone. C'est pour Sébastien Descoux. Bravo Sébastien. Et donc maintenant pour le dernier téléphone. Donc avec Dami Manuel. Et oui. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous. C'est que le début d'une histoire. Je peux vous dire que dans la roadmap, il y en a beaucoup. On communiquera en temps et en heure, mais il y a pas mal de choses qui arrivent, que ce soit sur la partie SQL, sur la partie Big Data, sur la partie réseau, sur la partie VM. En tout cas, merci encore à tous d'être venus. Et je vous souhaite une excellente journée et plein de bonnes choses sur Azure. Merci à tous.